Frères et sœurs bien-aimés, je ne sais pas si vous aimez beaucoup les moments compliqués dans votre vie. En tout cas, les personnages que nous présentent les trois lectures de ce jour, donc Élie, Paul, Pierre, sont passés par des moments difficiles. Donc Élie, nous le retrouvons là, il était en train de s'enfuir parce que la reine Jézabel voulait le faire mourir. Paul constate l'échec de sa prédication auprès de ses frères juifs. Pierre commence à couler. Et alors, je vous propose aujourd'hui de voir comment, au travers même de ces difficultés, leur foi a pu grandir, a pu s'affermir. Pierre, dans la première lettre qu'il écrit, une parole un peu provocante. Vous exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés pour un peu de temps encore par toutes sortes d'épreuves. Pourquoi ? Parce que ces épreuves vérifieront la qualité, la valeur de votre foi, qui a bien plus de prix que l'or. Et Saint-Pierre n'est pas le seul à dire des choses comme ça, à nous provoquer. Saint-Jacques, au début de sa lettre, dit la même chose, plus ou moins. Considérez comme une joie extrême, mes frères, de buter sur toutes sortes d'épreuves. Vous le savez, une telle vérification de votre foi produit l'endurance. Donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans l'Écriture. Et par épreuve, il ne faut pas entendre simplement les choses les plus horribles qui peuvent nous arriver, mais au sens d'une épreuve sportive ou des examens, les épreuves du bac. C'est un moment où nous sommes appelés à faire nos preuves, où nous montrons que nous sommes attachés à Dieu, pas d'abord par un intérêt mesquin, mais parce qu'il est notre Dieu et que nous l'aimons. Voilà, alors, comment ces trois personnages ont pu grandir à travers leurs difficultés? Alors d'abord, Élie. Donc avant d'arriver à la montagne de Dieu, où nous nous retrouvons aujourd'hui, donc Élie, c'est un personnage haut en couleur, qui faisait un peu la pluie et le beau temps, au sens propre. Donc pour aller le voir, on prenait quelques précautions pour ne pas se prendre la foudre sur la figure. Et les 450 prophètes de Baal qu'il a égorgés, soit un témoignage aussi de la vigueur du prophète Élie, mais à la suite de ce massacre, la reine Jézabel veut le faire mourir. Et alors là, on trouve un Élie tout différent, un Élie en prise avec la peur, et il a envie de s'en arrêter là. Maintenant, Seigneur, c'en est trop. Reprends ma vie, je ne vaux pas mieux que mes pères. Et alors, Dieu s'approche de lui d'une façon toute paternelle, maternelle presque, et lui propose, par le biais d'un ange, de la nourriture, de l'eau. Lève-toi et mange, car il est long le chemin qui te reste. Et alors, fortifié par cette nourriture, Élie marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à l'Horeb, la montagne de Dieu, donc, que nous voyons dans la première lecture. Alors donc oui, le chemin de la foi est un chemin trop long si nous ne sommes pas nourris par Dieu, si nous ne nous appuyons pas sur sa grâce. Mais alors dans cette lecture, la première lecture, nous voyons que en même temps il se produit un bouleversement dans la relation d'Élie avec le bon Dieu. Jusqu'ici, comme je l'ai déjà dit, Élie, c'était quelqu'un que tout le monde craignait. Là, alors il y a d'abord un ouragan, après un tremblement de terre, après un feu. Alors vous reconnaissez, c'est les signes de la manifestation de Dieu, la théophanie, déjà qui est advenue avec Moïse sur le Sinaï. Alors du coup, Moïse en recevait aussi une autorité, une légitimité auprès de tout son peuple. Mais là, non. c'est dans la brise légère où Élie expérimente cette tendresse, cet amour de Dieu, et c'est à l'abri des regards, il est tout seul, il n'y a personne pour l'admirer, voilà. Il y a un certain dépouillement, mais en même temps une profondeur dans cette rencontre avec Dieu, parce que c'est un Élie vulnérable. Ce n'est pas l'Élie tout-puissant qui rencontre Dieu à ce moment-là, mais celui qui a fait l'expérience de sa faiblesse et qui peut alors faire l'expérience aussi de la tendresse de Dieu. Alors, donc, voilà pour Élie. Alors, Paul, c'est quand même un prédicateur hors pair. Si vous me permettez l'expression, il a un beau tableau de chasse, il a converti, ou le Seigneur par son intermédiaire a converti beaucoup de gens, il a fondé beaucoup de communautés, mais là, avec ses frères juifs, il n'y arrive pas. Et il a dans le cœur une grande tristesse, une douleur incessante. Là, c'est vraiment, il est mis en échec. Alors il nous dit aussi que dans son itinéraire de foi, c'est être confronté à l'échec, ou à un autre moment, pour sans doute un autre sujet, il parle d'une écharde qui est dans sa chair, dans la deuxième épître qu'il écrit aux Corinthiens. Pour m'empêcher de me surestimer, j'ai reçu dans ma chair une écharde, un envoyé de Satan qui est là pour me gifler, pour empêcher que je me surestime. Par trois fois, j'ai prié le Seigneur de l'écarter de moi, mais il m'a déclaré « Ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. » Alors Paul aussi expérimente que Dieu œuvre aussi à travers notre faiblesse. Pierre, la troisième figure que je veux évoquer avec vous aujourd'hui, d'abord une petite question. Ça ne vous serait peut-être pas venu à l'esprit, mais vous auriez osé enjamber la barque pour aller rejoindre Jésus sur l'eau, pour lui dire, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir à toi sur l'eau. Peut-être qu'on aurait préféré rester comme les autres dans la barque à regarder ce qui se passait. Donc Pierre avait déjà une certaine foi. Jésus ne lui dit pas non plus « t'as aucune foi, mais homme de peu de foi ». D'ailleurs, Pierre avait déjà assisté, on voit dans l'évangile de saint Matthieu, à la tempête apaisée, au chapitre 8. Mais alors, il y a une chose très importante qui doit se passer pour Pierre, et ça ne se fera pas en une fois. Pierre a beaucoup, beaucoup de générosité, mais Pierre a un peu de présomption aussi. Et alors, dans la parole de Dieu, très souvent, Dieu montre à l'homme qu'il ne doit pas compter sur ses seules forces, mais qu'il s'appuie sur Dieu. Il y a beaucoup d'épisodes dans la Bible, vous vous rappelez de Gédéon, alors ils étaient relativement nombreux à vouloir le suivre pour le combat, Dieu dit non, ils sont trop nombreux, ils pourraient croire que c'est par leur propre force qu'ils arrivent à vaincre l'ennemi. Donc non, on va réduire encore ce nombre de combattants pour que ça soit évident que ce n'est pas par leur seule force qu'ils ont le dessus sur l'ennemi. Et alors, donc, Pierre aussi, lui, doit être guéri de sa présomption. Et ça ne va pas se faire en une fois. Alors, il y a cette fois-ci. Il y a encore un peu plus loin, au chapitre 16. Alors, Saint-Pierre avait fait une belle profession de foi, et juste après, il ne peut pas supporter que Jésus envisage sa mort, sa souffrance, etc. Et alors, il s'attire une remarque très cinglante de Jésus, « Passe derrière moi, Satan !» Ou alors, un peu plus loin, encore dans l'Évangile, au moment de la Passion, il dit « Même si tous t'abandonnent, moi, je ne t'abandonnerai pas !» Et puis, un peu plus loin, il renie Jésus. Donc, la présence, à de multiples reprises, cette présomption de Pierre est comme entamée pour qu'il vraiment il réalise que ce n'est pas par ses seules forces. Et on voit que Pierre, comme nous, je pense, il y a toutes les peurs qui habitent Pierre, peur de la souffrance notamment, mais peur du regard des autres, peur de... voilà. Et voilà, il doit apprendre à se remettre entre les mains de Dieu. Et paradoxalement, Pierre est beaucoup plus fort après son reniement, parce qu'au moins il est lucide sur sa faiblesse. Et il est conscient qu'en dehors de Jésus, il ne peut rien faire. Alors, en conclusion, quelquefois, pour ceux qui vont un peu sur Internet, donc on arrive sur un site, et puis après, il faut un mot de passe pour aller un peu plus loin. Si on n'a pas le mot de passe, on voit des choses un peu générales, mais on n'entre pas dans ce qui est le plus intéressant dans le site. Et alors, on pourrait dire que c'est un peu la même chose. On peut accéder au Dieu des philosophes, auquel tout le monde peut accéder, on pourrait dire. Mais après, pour accéder au Dieu de Jésus, au Dieu des chrétiens, alors il faut un mot de passe. Et quel est ce mot de passe ? Vous avez une petite idée, il est dans l'Évangile. Alors c'est au moins un des mots de passe, mais c'est un mot de passe essentiel. Sans ce mot de passe, on ne peut pas aller plus loin. On ne peut pas rentrer vraiment dans cette relation personnelle. On reste dans le domaine public, là où tout le monde peut aller, mais dans cette relation personnelle avec Dieu, on ne peut pas. Si on n'a pas ce mot de passe, c'est ce mot qu'emploie Pierre. Sauve-moi ! Ça, c'est le mot de passe. Et c'est notre mot de passe aussi pour nous. Si on veut entrer plus avant dans notre vie de foi, dans notre relation avec Dieu, sans ce mot, on ne peut pas aller plus loin. Et comme vous voyez que Pierre est en train de se noyer, il commence à enfoncer. Mais ce n'est pas simplement dans l'eau qu'il s'enfonce. Pour les Juifs, vous savez que la mer, c'est le domaine des forces mauvaises. Il y a le mal qui le tire vers le bas. Et alors, je pense que vous aussi, nous ne sommes pas l'Immaculée Conception, hélas. Quelquefois, il y a le mal aussi qui vous tire. Mais alors, à ce moment-là, il faut crier aussi comme Pierre. C'est le mot de passe pour être sauvé. Sauve-moi ! Alors, je vous laisse simplement ce mot comme conclusion pour que cette semaine, vous regardiez tous les lieux de votre vie où vous avez besoin d'être sauvé par Dieu. Vous ne pouvez pas vous en tirer tout seul. Vous pouvez, bien sûr, aller voir le médecin, aller voir le psychologue, aller voir... Bien sûr, et certaines fois, il faut le faire. Mais il y a des choses, non. Vous aurez beau, ils ne vous sauveront pas. Il n'y a que Dieu qui puisse vous sauver. Amen.